en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup. Je voulais juste un mot pour commencer. J'aime bien commencer, comme les anglo-saxons, par un beginning joke. Alors, bien sûr que j'y réfléchis sur le moment en me disant qu'est-ce que je vais raconter. Et tant pis si ce n'est pas l'habitude à l'Institut de France. On dit Madame la Présidente ou Madame le Président ?
Madame le Président.
Madame le Président. C'est ce que je pensais. Oui. C'est ce que je pensais à l'Institut de France, oui. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'ai bien connu dans ce qu'on appelait la coloniale, entre guillemets, un médecin qui s'appelait Guy Bréau. Guy Bréau, je l'ai connu au Tchad, et il a été affecté à un poste au Congo. Et il me dit, je suis à 100 km de Brazzaville, si tu passes par là, viens me voir. Moi, je passe toujours par là. Hein. Quand on me dit, viens me voir, je vais toujours voir des gens. Donc, je suis passé par là. Et j'ai rencontré Guy Bréau et on a passé un séjour superbe le long de ce fleuve Congo. Et pendant mon séjour, Guy Bréau a été affecté à un autre poste, au moins de manière provisoire. Et est arrivée une femme, alors que les Congolais appelaient Guy Bréau « Monsieur mon docteur ». Vous savez, le verbe en Afrique est tellement important et superbe malgré les agitations actuelles. Donc, monsieur mon docteur étant parti, arrive une femme. Comment va-t-on l'appeler ? C'est ça. Et elle est devenue madame ma doctrine. Et j'avais proposé à Étienne Wolff, que j'ai bien connu, de faire non pas une entrée au dictionnaire de l'Académie française, mais au moins une acception particulière du terme doctrine. Donc, madame le président, pardonnez-moi. Monsieur le chancelier, mais ici, vous n'êtes que membre, n'est-ce pas ? Monsieur le secrétaire perpétuel, je suis évidemment très, très honoré de venir chez vous. C'est la première fois que je parle ici, je crois, parce que je suis souvent de l'autre salle à côté. Et quand je suis rentré en 83 comme correspondant et puis comme en 85 comme membre, nous nous réunissions tous le lundi. C'est Hubert Curien qui a changé les habitudes. Et donc, nous nous rencontrions souvent dans cette grande salle, puisque c'était le passage vers votre salle, la petite salle rouge. Alors, vous m'avez demandé de parler des religions du paléolithique. J'appellerai ça volontiers, plus volontiers, mais c'est un peu la même chose, les religions de la préhistoire. D'abord parce que je voudrais parler un petit peu du néolithique, et puis aussi parce que le paléolithique a des franges de départ qui sont un petit peu floues depuis un certain nombre d'années. Donc les religions de l'homme en général depuis ses débuts, en quelque sorte. Et je voudrais prendre une perspective cosmique. Alors, c'est peut-être un peu bizarre et ça a l'air hors sujet, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. Puisque l'homme est un être vivant, il fait partie du monde vivant. Le monde vivant fait partie de la biosphère, même s'il n'est pas né sur la Terre, il a pu être apporté par d'autres éléments sur la Terre à une certaine époque lointaine. Et comme la Terre fait partie d'un système stellaire, qui est le système solaire, ce système solaire fait partie de l'univers. Autrement dit, c'est la même histoire. Et c'est pour ça que je prends toujours, avec malice, cette longue perspective. Mais rassurez-vous, je la ferai vite, je la passerai vite en revue. Mais il faut savoir tout de même que, en remontant comme ça de l'homme à la Terre, de la Terre au Soleil et du Soleil à l'univers, cet univers, c'est le nôtre, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Et cet univers, on commence à le percevoir il y a en gros 14 milliards d'années. 14 milliards d'années. C'est-à-dire qu'on peut raconter l'histoire des derniers 14 milliards d'années. Et l'histoire de l'homme s'inscrit dans cette histoire-là. Les 14 milliards d'années débutent à un moment où l'univers est perçu. C'est amusant d'écouter les astrophysiciens, que je ne suis pas, lorsqu'ils disent qu'avant c'est opaque, et lorsqu'ils disent, vous connaissez la science, la science a toujours ses formules superbes, lorsqu'elle ne sait pas, elle appelle ça des questions ouvertes. Donc l'origine de l'univers, c'est une question ouverte. On perçoit l'univers à partir d'un certain moment, mais on n'est pas du tout convaincu que c'est l'origine de notre univers. En tout cas, toute cette histoire-là est la même, et c'est en ce sens que je me permets de démarrer à 14 milliards d'années. Alors, une chose est importante, et elle sera importante ensuite pour l'histoire de l'homme, c'est que il y a 14 milliards d'années, on perçoit une matière. Et cette matière est sans cesse en changement, en attitude de changement. Elle change tout le temps. Elle change tout le temps. Et elle change tout le temps jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle change encore. Et c'est pour ça que l'homme aussi s'inscrit dans cette mouvance. Mais cette matière change tout le temps dans un milieu, et heureusement pour la science, où les lois physiques, elles, ne changent pas. Et ça, c'est fantastique quand même. C'est un constat, hein. Il n'y a pas de message derrière. Mais il se trouve que les lois physiques, depuis 14 milliards d'années, n'ont pas changé, ce qui nous permet de raconter, en fait, cette histoire. Et d'autre part, cette matière qu'on appelle inerte, bien qu'elle ne soit pas vraiment, change tout le temps dans le sens de la complication et dans le sens de l'organisation. Et pour moi, ça, c'est déjà fantastique, parce que ça, il y a un constat là étonnant. Ça veut dire, encore une fois, sans aucun message, ça veut dire que à partir du moment où la transformation de la matière a un sens, elle a du sens. Et cette transformation de la matière, elle m'apparaît, moi, comme, on pourrait dire comme ressentie, comme, un petit peu comme on dit en météorologie, comme une sorte d'obsession. D'obsession de devenir toujours plus compliqué. Et cette complexification, elle devient aussi mieux organisé. Donc c'est ce que j'appellerais le paradoxe numéro un. La matière inerte est de mieux en mieux organisée, mais de plus en plus compliquée. Et puis il y a 4 milliards 600 millions d'années, c'est un ordre de grandeur, enfin c'est à sûrement des millions d'années près, il y a 4 milliards 600 millions d'années, apparaît le système solaire. Le système solaire, c'est un système d'une étoile. Le Soleil est une étoile au milieu d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et autour du Soleil s'installent des planètes, telles la Terre. Et il se trouve que la Terre, qui a le même âge, 4 milliards 600 millions d'années, a une masse telle par rapport à la masse de son Soleil, et une distance avec le Soleil qui n'est pas considérable, 150 millions de kilomètres, sur la Terre, le dégazage de la Terre fait une atmosphère, et le bombardement de comètes sur la Terre apporte l'eau de la Terre. Et cette eau-là, et ce dégazage-là, va faire à la fois l'atmosphère et va faire les océans. C'est-à-dire que les comètes, avec l'eau apportée par ces contacts, par ces percussions, va apporter de l'eau qui va installer les océans en 500 millions d'années. Alors 500 millions d'années par rapport à 4 milliards 6, ça fait un petit peu plus de 4 milliards. Et à ce moment-là, dans l'eau, j'y reviens, parce que je vous assure qu'à la longue, moi j'ai un certain âge, C'est impressionnant, c'est cette toujours obsession de la matière de se compliquer, absolument. De se compliquer dans la mesure où elle en a la possibilité. Et là, dans l'eau, elle en a la possibilité, c'est-à-dire que les molécules vont devenir des cellules et que la matière inerte, de manière continue, avec un petit décrochement quand même, un petit quelque chose de plus, va devenir la matière vivante. Et cette matière vivante, elle est dotée d'un caractère extraordinaire qui est le caractère de la reproduction. Et elle va d'ailleurs être dotée de cette même obsession en se moquant complètement de l'individu, de faire absolument survivre l'espèce. Ça aussi, c'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant comme constat, si vous voulez. Au terme d'un long voyage dans la biologie. Ainsi, dans cette histoire de la vie, on verra par exemple les plantes qui avaient des spores, et les spores étaient gênées par l'humidité. On verra les spores se transformer par sélection, probablement, en graines. Et les graines vont devenir plus résistantes à l'humidité. C'est-à-dire qu'il y a en même temps cette notion de progrès que l'on refuse souvent et que moi je continue, enfin j'y ai bien réfléchi, mais c'est pas une raison, que je continue à retenir et à citer. Et de la même manière que dans les mammifères, nous aurons 100 millions d'années de mammifères ovipares, on va pondre des œufs pendant 100 milliards d'années, 100 millions, pas exagéré. Avant que les mammifères ne deviennent placentaires et qu'ils aient leurs petits beaucoup plus protégés dans un placenta qu'ils ne l'est dans l'œuf. Donc voilà la vie en place. Et cette vie-là, elle apparaît donc autour de 4 milliards d'années. Elle apparaît dans l'océan. Elle va faire comme la matière précédente. Elle va se compliquer et s'organiser de mieux en mieux. Elle va se diversifier. Et elle va se diversifier avec un nouveau paradoxe qui est à la fois la créativité extraordinaire de la nature. Les paradoxes, c'est moi qui les ai mis en place. Hein. Ça, c'est peut-être pas comme ça qu'on peut les exposer, mais ça me paraît ainsi. Donc là, la nature est extrêmement créative, extrêmement pleine d'idées et de bricolage. Elle va fabriquer plein de choses et en même temps, elle va être extrêmement limitée, de plus en plus contrôlée par l'hérédité. L'ARN d'abord, l'ADN ensuite. Donc, paradoxe numéro 2, une vie qui est extrêmement créative, mais contrôlée de mieux en mieux, de plus en plus, par le corset de l'hérédité. Et c'est amusant de voir à la fois ces deux éléments qu'on avait vu déjà dans la matière inerte, que l'on retrouve dans la matière vivante. Donc nous voilà dans la matière vivante, qui se diversifie beaucoup, mais je passerai très vite, bien sûr, et j'arriverai au sein des mammifères qui apparaissent, comme je vous l'ai dit, autour de 200 millions d'années, au sein des primates. Les primates, c'est un ordre, c'est comme ça qu'on classe les êtres vivants dans notre classification zoologique, et les primates apparaissent il y a 70 millions d'années. Et les primates, alors là, ça, là aussi, c'est un petit amusement, mais c'est intéressant à présenter. Les primates sont des insectivores à l'origine qui se sont adaptés aux arbres. Et s'étant adaptés aux arbres, ils se sont adaptés à la quadrupédie et en même temps à l'arboricolisme. Et donc, comme ils sont dans les arbres, comme ils sautent d'un arbre à un autre, ils ont besoin d'une perception des trois dimensions de l'espace. Et c'est la première fois que les orbites, que les yeux, passent en façade. Et les yeux en façade donnent la dimension 3D qui leur permet de ne pas se casser la figure quand ils sautent d'un arbre à un autre. Donc voilà les primates en place. Et à ce moment-là, les primates qui sont en haut, qui mangent des fruits, ils ont le regard vers le bas. Alors c'est à retenir et ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais pour moi ça en a un peu. Donc les primates sont en haut et ils ont un regard plutôt vers le sol puisque c'est de là que vient la prédation. Et la prédation, ils la craignent comme n'importe quel être vivant. Il y a 10 millions d'années, on était à 70 millions. Il y a 10 millions d'années apparaissent les ancêtres communs des pré-chimpanzés et des pré-humains. Autrement dit, les chimpanzés et les hommes. Nous avons des ancêtres communs, ça a été confirmé par des quantités de choses, et notamment le décryptage de l'ADN récemment. Et il y a 10 millions d'années, ces primates supérieurs vont se développer soit vers une adaptation à la forêt qu'ils subissent, soit vers une adaptation à une ouverture de paysage qui survient à ce moment-là. Il n'y a rien de délibéré. Mais il se trouve qu'une ouverture du paysage se crée, et c'est dans cette ouverture du paysage que le petit primate d'antan, pour s'y adapter, ce qui m'a toujours beaucoup étonné et m'étonne encore aujourd'hui, se relève. C'est-à-dire qu'il change des tas de choses. Il se met sur deux pieds au lieu d'être sur quatre. Et il va, à ce moment-là, la seule différence, c'est que au lieu de ne vivre que dans les arbres, que de ne s'alimenter que dans les arbres, il va s'alimenter à la fois dans les arbres et à terre, puisqu'il y a à la fois de la forêt, très éclaircie d'ailleurs, et il y a aussi des grandes prairies, des grandes ouvertures. Donc il va manger des fruits en haut, il va manger des racines en bas. Et c'est apparemment la raison pour laquelle il se met sur ses deux pattes de derrière. Et se mettant sur ses deux pattes de derrière, il va aussi changer son regard. Voilà où je voulais en venir. Et son regard, je ne sais pas si, encore une fois, ça a un intérêt, mais c'est amusant d'y penser. Il va forcément, pour la première fois, être un regard à l'horizon et être un regard vers le ciel. Le ciel, auparavant, il ne l'avait pas vu. Il était en haut, il regardait plutôt vers le bas. Et là, il va regarder vers l'avant et il va regarder vers le haut. Ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, ce que je dis, mais ça me semble être un grand changement. Parce que, enfin, ne serait-ce que le changement de la quadrupédie à la bipédie est quelque chose de tout à fait impressionnant. Alors, je ne vous donne pas le détail, mais ça, on connaît ça très bien désormais, parce qu'on a beaucoup de fossiles, et beaucoup de fossiles qui sont à la fois debout, bipèdes, mauvais bipèdes, mais bipèdes quand même, et grimpeurs. Ils gardent les deux locomotions et les deux comportements. Il y a 3 millions d'années, j'ai dit 70, j'ai dit 10, et maintenant on en est à 3. Le changement climatique en question s'accuse, donc le milieu s'ouvre encore plus qu'il ne s'était ouvert, et ceci nécessite une adaptation. Et l'adaptation, c'est presque le mot-clé de toute l'histoire de la vie. Je préfère l'histoire de la vie et l'histoire du transformisme que l'histoire de l'évolution, qui est déjà une terminologie un petit peu tendancieuse. Mais en tout cas, il y a 3 millions d'années, le préhumain devient humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au milieu d'une réponse à ce changement climatique, qui est drastique, qui est très important, un certain nombre de préhumains vont s'y adapter par une dissuasion physique, qui vont devenir plus robustes et plus résistants aussi à la prédation, hein. C'est le seul souci. Quand on vit dans la nature, ça se voit tous les jours. Et le côté extravagant à nouveau de l'humain et de la nature et de la créativité de la nature en général, c'est qu'à ce moment-là, l'homme va se transformer en développant son cerveau. Et ce qui est amusant et presque blasphématique de dire, c'est que le développement du cerveau au départ est uniquement fabriqué, innové, pour penser à de nouvelles stratégies pour résister à la prédation. Pour résister à la dent du carnivore, il y en a qui vont avoir une dissuasion physique, je l'ai dit, il y en a d'autres qui vont marcher plus vite ou courir mieux, je ne l'ai pas dit, et il y en a d'autres qui vont avoir gardé un petit corps, c'est le cas de l'homme, mais développer sa tête pour réfléchir à des stratégies pour échapper à la prédation. Et c'est tout le changement de l'histoire, et c'est toute l'histoire de l'apparition de l'homme, de l'émergence de l'homme. Et à ce moment-là, semble-t-il, Ce changement de la tête, ce changement du cerveau, va passer un seuil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Va passer un niveau de complexité qui va faire que ce cerveau va avoir une meilleure réflexion, va atteindre un certain niveau de conscience, va savoir qu'il sait, disent certains philosophes, et ça me semble peut-être un petit peu facile, mais c'est une manière de bien comprendre les choses, c'est que les animaux savent beaucoup de choses, mais l'homme, à partir de ce moment-là, sait qu'il sait. Quand s'il sait qu'il sait, il peut anticiper. Et avec cette transformation de la tête, il va prévoir les choses. Il va, au lieu d'utiliser des cailloux, il va les fabriquer. Donc réfléchir à une action à venir. Et il va, inhérent à sa personne, développer une angoisse qu'à une certaine époque on appelait existentielle, enfin une vraie angoisse de l'existence, qui est en fait la prise de conscience de la mort. Et alors que je vous disais tout à l'heure que la nature se moquait de l'individu et faisait tout pour faire en sorte que l'espèce survive, avec l'homme, il y a tout d'un coup une prise de conscience de la personne. Alors quand je dis tout d'un coup, je n'y crois pas trop, je pense que ça précède, mais une certaine connaissance, une certaine prise de conscience de la personne, de l'individu, de la personne, et quand même, ça change complètement le plan des choses. Alors ça, au lieu d'appeler ça une adaptation, désormais, on appelle ça une exaptation, parce que finalement, la tête est en fait pour, encore une fois, trouver des astuces pour éviter les prédateurs. Cette tête qui, aujourd'hui, va réfléchir à l'univers et essayer de comprendre comment il fonctionne, va utiliser sa complexité pour faire autre chose. Donc, c'est plus une adaptation, c'est une exaptation. C'est un usage pirate, en quelque sorte, de la tête dont on s'est servi. Et je pense que c'est, pour moi, vraiment, c'est pour ça que je tenais à prendre cet élan, la même histoire, et que la spiritualité, la religion que vous m'avez demandé de raconter, commence d'une certaine façon à ce moment-là. Et quand on fait de la préhistoire, bien sûr que l'on peut suivre des développements de l'homme, la manière dont il développe un certain nombre d'aspects de ses cultures, de son environnement culturel désormais bien en place, mais il n'y a plus de discontinuité. Depuis ce premier homme d'il y a 3 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, on a une histoire qui est tout à fait lisse, si j'ose dire, tout à fait continue, et on est tout à fait dans le même circuit. Alors je le dis quelquefois d'une manière un peu simpliste, je le dis de cette façon, l'homme est homme dès qu'il est homme. C'est-à-dire que ces facettes techniques, technologiques, cognitives, intellectuelle, esthétique, éthique, spirituelle, sont là tout de suite. Pour moi, c'est là tout de suite. Alors, c'est encore une fois un ressenti, le terme est mauvais, hein, parce que scientifiquement, vous allez voir, c'est pas facile à démontrer. Il y a beaucoup de choses qui démarrent très tôt, mais démontrer ce que je dis là n'est pour le moment pas possible. Mais encore une fois, quand on voit l'homme apparaître, moi je l'ai vu apparaître, je le dis de manière un peu amusante, mais j'ai vu l'homme naître parce que j'ai travaillé dans un terrain 10 ans, dans le sud de l'Éthiopie, où j'avais les terrains adéquats, où je voyais le préhumain se faire homme. De même que tous les animaux changeaient pour essayer de survivre, il y en a qui rataient d'ailleurs, il y en avait qui disparaissaient. Le préhumain devient homme, et il devient homme pour ça, hein, pour s'adapter au changement climatique. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette époque-là, il n'y a plus, encore une fois, de changement, mais seulement une amélioration. Donc, voilà ce que je pense au moins du début. Et ceci m'amène à vous dire ce que j'ai appelé le paradoxe 3, et qui est particulièrement important en ce moment. C'est que on a vu que la vie était la matière était de plus en plus compliquée et de mieux en mieux organisée. On a vu qu'avec la vie, elle était de plus en plus diversifiée, mais de mieux en mieux contrôlée. Et avec l'homme, elle est de plus en plus libre, c'est incontestable, mais responsable. Liberté et responsabilité. Moi, j'ai toujours rêvé d'en faire un seul mot. Et parfois, on parle de liberté, vous savez bien de quoi je parle. On parle de liberté, 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 mais la liberté, elle doit s'accompagner de responsabilité. Et une responsabilité qui contrôle elle-même cette liberté. C'est le paradoxe de l'homme, c'est-à-dire que tout est entre nos mains. On est libre, certes, mais responsable de cette liberté. Donc, voilà la mise en place du bonhomme. Et je suis très impressionné, moi, par l'outil. Le personnage, la première personne qui, au lieu de prendre un caillou et de s'en servir, a eu l'idée de prendre le caillou et d'en prendre un autre, et puis de taper avec l'autre sur l'un, donc de sculpter quelque chose, de sortir quelque chose. Je peux pas dire sûr parce que je ne serai plus scientifique, mais j'ai l'impression que c'est déjà un symbole. Que cette manière de concevoir une forme nouvelle à partir d'une forme naturelle, c'est quelque chose de tout neuf, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à l'homme, et c'est un grand moment, quoi. Le premier homme qui a eu l'audace de fabriquer cette première forme à lui, ce premier caillou aménagé, de manière délibérée et vraiment celui qui a fabriqué le premier symbole. Sur le plan de la démonstration scientifique, évidemment, ce que l'on cherche, c'est le maximum de distanciation. C'est-à-dire que sur le plan des preuves, on cherche dans la nature dans les sites préhistoriques, ce qui, en gros, est fait pour rien, est fait pour l'esthétique, est fait pour le plaisir, est fait sans point de vue fonctionnel. Et là, j'ai repris des phrases de Leroy Gourhan. Leroy Gourhan a été notre confrère ici à l'Académie aux sciences aux inscriptions et belles-lettres, et il a été mon grand prédécesseur au Collège de France. Et André Leroy Gourhan disait: il n'y a pas d'art sans technique, il n'y a pas de technique sans art. Et comme il ajoutait, la technique, l'art sont des indices de spiritualité. Voilà, nous y sommes. J'essaye de démontrer que je ne suis pas hors du sujet, mais tout ça, c'est de la spiritualité, c'est-à-dire que même la technique, en un sens, quand on regarde aujourd'hui, grâce à l'ethnologie, le comportement des petites sociétés, tous les gestes, pratiquement tous les gestes quotidiens sont sacrés, sont des gestes qu'on ne fait pas n'importe comment. Et ce n'est pas évidemment notre vie collective et plus démographiquement plus importante d'ailleurs, mais c'est quand même intéressant à voir. Et par ailleurs, cette conscience, quand je vous disais que la conscience, c'était essentiellement pour moi, à terme, à force de penser à la conscience, on arrive à la conscience de la mort. C'est ça l'essentiel, autrement dit, la mort de la personne, la mort de l'individu, d'où l'importance aussi de l'individu. Eh bien, cette conscience de la mort, elle est bien, bien traduite par cette phrase de Godelier, qui est un ethnologue, et qui dit: dans aucune société, la mort est la fin de la vie. C'est-à-dire qu'on a grande envie de faire en sorte que ça se prolonge, et ça renforce aussi l'idée de, de la personne. Alors en Afrique, on dit la séparation entre sacré et profane n'existe pas, ce que je crois véritablement. D'où les constructions mythiques que l'on connaît bien, d'où les constructions d'animisme, chamanisme, etc., et qui conduisent au système régulateur qu'on appelle la religion, et qui est en fait l'organisation de cette spiritualité. Alors, les données scientifiques. Là, j'en ai aligné beaucoup et je vais aller vite, mais c'est pour vous montrer que tout de même, le préhistorien a des preuves, et a des preuves qui sont de valeur inégale, mais tout de même des preuves depuis longtemps. La pierre taillée, j'y tiens, hein, parce que je crois vraiment que c'est un symbole. La pierre taillée apparaît autour de 3 millions d'années. Il y a des articles qui sont en cours en ce moment, qui ne sont pas encore publiés, avec des objets incontestablement taillés et qui dépassent un peu 3 millions d'années, et qui ont été trouvés en Afrique orientale. La pierre, je ne veux pas insister sur la pierre taillée, parce qu'elle a quand même une raison fonctionnelle, mais la pierre taillée symétrique, les fameux bifaces, avec symétrie bilatérale et bifaciale, qui sont superbes, apparaissent en Afrique autour d'1 700 000 ans. Et là aussi, tout de suite, il y a un côté pour rien. Je veux dire que quand on est dans un milieu où il y a un choix de pierres, un choix de matériaux, de matières premières, et un choix de couleurs, souvent à qualité égale, la matière qui aujourd'hui nous paraît la plus belle, et après tout ces gens-là sont des nôtres, est celle qui est choisie, et la couleur quelquefois nous paraît aujourd'hui, c'est un petit peu dangereux à dire, hein, mais nous paraît avoir été préféré à d'autres teintes. Donc il y a un côté esthétique immédiat. Et j'ai vu des bifaces de ces objets donc symétriques taillés dans des pierres fossilifères et faire en sorte que, enfin je suppose, que le fossile soit conservé dans le caillou. C'est-à-dire qu'il y a des bifaces avec des fossiles dedans, des fossiles dans la matière première. C'est évidemment un petit clin d'œil, mais c'est sûrement pas fait n'importe comment, du moins à mon avis. Deuxièmement, les pierres figures. Alors les pierres figures, c'est toujours un peu embêtant parce que on voit aujourd'hui des figures et on en a peut-être vu à cette époque, mais c'est pas sûr. Il y a une espèce de face humaine dans un caillou qui a été recueilli à Makapansgat. Makapansgat, c'est en Afrique du Sud et qui a 3 millions d'années, incontestablement. Est-ce que ces gens ont compris que ça ressemblait à une face ou pas? Impossible à démontrer. Il y a une figurine de 180 000 ans, donc c'est un peu plus récent, découverte en Israël, à Berakat Ram, et qui semble avoir été un petit peu aménagée. C'est-à-dire que quand on voit un caillou qui ressemble à quelque chose, que c'est amusant dans sa forme, dans sa découpe, est aménagé pour qu'il ressemble encore plus à la forme en question. Vrai ou pas, là, c'est pareil. Et alors, il y a une autre face humaine qui, elle, n'a qu'une trentaine de milliers d'années, qui a été trouvée à La Roche-Cotard. La Roche-Cotard, c'est en Indre-et-Loire. Et celle-là a été un petit peu aménagée. Et comme il y a un trou dans le silex, il y a même un petit brin d'os qui a été glissé à travers le trou du silex pour figurer les sourcils. C'est-à-dire que la face humaine qui apparaissait déjà dans son apparence, comme ça, est complétée par ce petit bout d'os. Troisièmement, curiosité pour rien, il y a un cristal de roche dans un site préhistorique de l'Inde de 500 000 années. Et il y a tout près d'ici, à Arcis-sur-Cure, c'est dans l'Aube, recueilli par André Leragourand, des gastéropodes fossiles, des polypiers fossiles et des pyrites, C'est-à-dire que l'homme, en l'occurrence, c'était l'homme de Néandertal, 100 000 ans, a eu l'idée, moi ça m'impressionne parce que c'est un collègue, rien que par curiosité, de ramasser des fossiles qui lui paraissaient bizarres dans leur forme et de ramasser des pierres qui lui paraissaient intéressantes par leur densité, un peu particulière par leur densité. Donc la curiosité pour rien, c'est aussi un progrès. Quatrièmement, curiosité pour s'orner le corps, directement ou indirectement. Il y a des espèces de petites coquilles que j'ai appelées bigorneaux à la bretonne, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Percées, il y en a 66 quand même, percées de la même manière pour être enfilées. Et dans un site d'Afrique du Sud qui s'appelle Blombos, 75 000 ans. Et il y a, j'ai pris quelques exemples à chaque fois, hein, mais il y en a beaucoup. Et il y a des ocres et des manganèses qui ont été trouvés avec des broyeurs et des godets, apparemment pour des tatouages du corps. Donc que ce soit l'ornementation par des objets ou l'ornementation par tatouage, ça c'est au mois d'Asine, ça a 10 000 ans. Ça existe, je dirais, depuis toujours, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Cinquièmement, le feu. Le feu fascine. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Et que le feu soit associé au sacré, il l'est encore aujourd'hui. Hein. Les grandes religions monothéistes l'emploient abondamment. Or, ce feu maîtrisé est connu à Becher Benot Yaakov, c'est un gisement d'Israël, probablement autour de 800 000 ans. Il a apparemment été fabriqué. À Soukoutien en Chine, autour de 700 000 ans. À Ménez-Drégan en Bretagne, il y a 500 000 ans. Ceci pour vous dire, mais j'y reviendrai un tout petit peu, que c'est sur la Terre entière. Ce n'est pas du tout spécifique à une population. Sixièmement, un chapitre un petit peu particulier sur l'ocre. L'ocre, d'abord, c'est fréquent dans la nature, et puis l'ocre, c'est un petit peu rouge. Donc, il y a peut-être un lien avec le sang, mais peut-être pas. En tout cas, il y a beaucoup de sites préhistoriques qui ont manipulé l'ocre. Et dans un site italien qui s'appelle Isernia la Pineta, 700 000 ans, il y a des morceaux d'ocre répartis sur le sol d'habitat. À Bekov, en Tchéquie, il y a une vraie couche d'ocre sur l'ensemble de l'habitat, et tout près de Paris, Pincevent, c'est dans le Val-de-Marne, c'est au bord de la Seine, c'est magdalénien, 12 000 années, il y a des petits paquets d'ocre devant chaque tente, devant chaque habitation. C'est sûrement pas non plus innocent, et ça n'a apparemment aucune utilité. Alors, des gravures géométriques, on en parle beaucoup en ce moment, je ne suis pas sûr que ce soit si important que ça, mais il y a des coquilles qui ont été découvertes il n'y a pas longtemps dans une collection ancienne qui vient de Trinil en Indonésie et qui ont des zigzags marqués dessus. C'est 550 000 ans. Des fragments d'ocre, un fragment d'ocre à Blombos, toujours en Afrique du Sud, 75 000 ans, qui a un petit dessin géométrique très, très compliqué. Et il y a un fragment d'os qui a fait beaucoup de bruit il n'y a pas longtemps non plus, trouvé à Gibraltar, fabriqué apparemment par un homme de Néandertal, 30 000 ans, et qui a un petit quadrillage. Alors ça veut dire que l'homme, sur n'importe quelle matière première, est capable de faire des petits dessins, peut-être pour s'amuser, peut-être pour autre chose. Les rites, la musique. Alors, la musique, on ne l'entend pas. Moi, j'ai toujours espoir de... Comme les objets sont étonnants de mémoire, d'avoir des possibilités de retrouver un jour des sons dans la préhistoire. Et je ne perds pas de vue cette idée. La physique fait tellement de progrès et les systèmes de radar en font tellement que peut-être qu'un jour je viendrai ici avec le premier chant de Cro-Magnon pour vous le faire entendre. Donc des sifflets sont connus en Europe centrale, en Europe orientale. Ce sont des phalanges avec des trous et ça a 200 000 ans. On les utilise, hein, ça marche bien. Il y a des flûtes qui ont été trouvées en Slovénie et récemment en Allemagne des diaphyses avec un certain nombre de diaphyses osseuses, avec un certain nombre de trous, 40 000 ans. Et à Mézirich, Mézirich c'est en Ukraine, il y a des cabanes en os de mammouth. Et dans l'environnement de ces cabanes, on a trouvé un certain nombre d'os de mammouth percutés, incontestablement percutés, et percutés de manière multiple, donc sur lesquels on tapait pour avoir des sons. Il y a des rhombes, c'est-à-dire des bouts d'os avec des trous qui, en les faisant tourner, sifflent. Il y a des bracelets d'ivoire de mammouth qui, lorsqu'ils sont nombreux, font des cliquetis. Et il y a, enfin, hélas, en ce moment, c'est peu possible, mais le chef de l'Orchestre philharmonique de Kiev, qui avait fait un petit disque sur la possibilité d'un mélange de ces sons pour faire une harmonie qu'il avait évidemment composée lui-même. La danse, alors évidemment, la danse, c'est difficile à repérer, mais j'ai eu un collaborateur dans mon laboratoire qui s'appelle Michel Garcia et qui faisait des moulages des sols des grottes. Et sur les sols des grottes, ce qui est très intéressant, il avait repéré des traces de pas et surtout des traces de pas de jeunes, d'adolescents. Et dans certaines grottes, les traces de pas étaient tout à fait rythmées, comme si devant les peintures dans les sanctuaires, dans les grottes, et il y avait eu des danses. Et c'est très impressionnant. Et on voit, ça se voit très très bien. C'est pas de l'imagination. Le traitement des morts. On a parlé de découpe de morts à une certaine époque. C'est quand même au-delà d'un million d'années. C'est pas très sûr. C'est possible. Mais en tout cas, il y a incontestablement une fosse sépulcrale en Espagne. Ça s'appelle la Cima de los Huesos, c'est dans le massif de la Tapuerca, c'est près de Burgos, 300 000 ans. Et il y a 3 000 ossements, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus, mais ces individus sont accompagnés par une seule pièce, un seul objet. Et cet objet est un biface, moi je l'ai vu, somptueux, rouge sang, il a fallu vraiment choisir la matière. Jeté comme ça au milieu de ces cadavres, comme un symbole à proprement parler, quoi. Ça ne fait guère de doute, on peut toujours discuter. Et puis les sépultures individuelles, vous le savez bien, des 100 000 ans, dit-on, 140 000 ans probablement. Alors il ne faut pas dire à partir de 140 000 ans, l'homme enterre ses morts, c'est pas vrai du tout, mais l'homme enterre certains de ses morts. Et moi je suis très impressionné par le fait que au moins 25%, ce sont des gens qui ont été malades, qui ont été blessés, qui sont handicapés et qui sont enterrés. On s'attend à ce qu'il n'y ait que des chefs. Enfin, peut-être que ce sont les chefs qui sont blessés. Mais en tout cas, c'est très impressionnant lorsqu'on découvre les cadavres de s'apercevoir que, accompagnant cet enterrement, enfin ce traitement particulier, Il y a en plus un regard vers ces handicaps. Donc ces sépultures individuelles, on les connaît bien, et les tombes sont creusées, soigneusement creusées. Souvent les parois sont passées à l'ocre d'ailleurs. Et il y a des dépôts d'objets de qualité, ou des dépôts de ce qui a été de la nourriture, ou des dépôts de fleurs dans un site proche de Bagdad, dans un site irakien de 60 000 ans. On a retrouvé suffisamment de pollen aggloméré pour non seulement savoir que c'était des fleurs, alors ou un fond de fleurs, ou un bouquet de fleurs, ou je ne sais quoi, mais en tout cas des fleurs incontestables. Et comme ces fleurs-là existent encore aujourd'hui dans cette steppe, on a pu reconstituer le bouquet offert aux morts il y a 60 000 ans. Alors les rupestres, bien sûr. Les rupestres, on en a répertorié 45 millions à travers la Terre entière sur 70 000 sites dans 160 pays. Et ce sont soit des peintures, soit des gravures, soit des hauts ou des bas reliefs. Et je peux vous parler un tout petit peu plus de l'ASCO, parce que j'ai l'honneur d'être président du conseil scientifique de l'ASCO en ce moment. Et l'ASCO, c'est tout de même sur 3000 mètres cubes, ce qui n'est pas considérable, une grotte privilégiée, enfin un trou privilégié qui a été retenu par ces gens il y a 18 000 ans et qui ont peint et gravé à peu près 600 peintures reconnaissables, 600 peintures d'animaux, 400 peintures qu'on appelle abstraites parce qu'on ne sait pas les lire. Et il est bien évident que c'est enfin, pour moi, c'est comme une écriture, puisqu'il y a association de ce qu'on sait lire et de ce que l'on ne sait pas lire. C'est-à-dire que jamais le bison ou le roc ou le cheval ne sera seul. Il sera toujours accompagné de signes abstraits, peints, et 1500 gravures. Et quand on est là-dedans, on m'a dit souvent, moi j'y vais assez souvent, S fonction, dans la grotte originale, et on m'a dit souvent, tu rencontres l'homme de Cro-Magnon. Pas du tout. Je rencontre le panthéon de l'homme de Cro-Magnon. C'est très impressionnant. Ces gens, c'est un sanctuaire, c'est-à-dire que ces gens ont fait une cathédrale. Ils ont fait une église, et dans cette église, ils ont peint tous les dieux de leurs cieux. Et ce que l'on rencontre, c'est leur façon de concevoir leur conception du ciel, leur conception de leur religion. Et c'est bien plus que l'homme lui-même, c'est la religion par excellence. Alors, il y a des objets, il y a bien sûr des sanctuaires immobiliers comme celui dont je viens de parler, comme Lascaux, qui est, même si ce n'est pas le plus beau, mais quand même, c'est un très beau sanctuaire. C'est celui qui est le plus connu, étrangement. Mais il y a aussi des objets mobiliers. Il y a des objets mobiliers par excellence, qui sont mobiles, qui sont soit des bouts d'os, soit des bouts de pierre, soit des bouts de cornes, de bois, et qui ont aussi des peintures, des gravures, et puis de vraies sculptures, comme la fameuse Vénus, qui commence autour de 40 000 ans en Eurasie. Et puis, en dépassant mon sujet, je vous dirai quand même un mot des mégalithes. Il se trouve que je suis aussi, c'est mon âge, président. Vous savez, à un certain âge, les confrères le savent bien, quand on est dans un comité, on est président, quoi. Je ne dis pas ça pour vous, Madame la Présidente. J'ai beaucoup de respect pour votre fonction. Mais souvent, dans un jury de thèse, par exemple, quand on a beau regarder ses chaussures, on a toujours la présidence, quoi. Alors, en l'occurrence, je préside, et ça me plaît beaucoup, le comité scientifique, forcément international, des mégalithes de Karnak. C'est-à-dire qu'on a pris en main ce domaine qui va d'Etel à la rive orientale du golfe du Morbihan, où il y a 10 000 pierres qui représentent 100 000 tonnes de granit, ce qui veut dire que cette région était sacrée. Quand on regarde l'ensemble de l'Armorique, il y a des menhirs partout, mais dans cet endroit-là, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Donc ça signifie que cet endroit a été retenu, que la société très puissante de cette époque-là, il a fait venir beaucoup de gens d'ailleurs que de l'endroit même, autrement ça n'aurait pas été possible, ne serait-ce que sur le plan de la main-d'œuvre. Et cet endroit-là est donc tout à fait exceptionnel. Alors je vous donne quelques chiffres. Les grands tumulus qu'on appelle des tumulus royaux, celui qui s'appelle Saint-Michel à Karnak, il fait 125 mètres de long, 60 de large, 12 de haut. C'est pas assez connu, hein? Parce que c'est 3000 ans avant les époques pharaoniques, quand même. C'est-à-dire que ça démarre autour de 7000 ans avant aujourd'hui. Et ce tumulus-là, on a estimé à 150 000 tonnes le poids des pierres et des terres qui sont au-dessus du caveau principal. Et dans le caveau, il y avait 40 haches en jadéite, qui est une matière qui vient des Alpes, des centaines de perles et de pendeloques en calaïs, qui est aussi une superbe pierre verte, à Locmariaker, toujours dans ce cet endroit privilégié, le grand menhir faisait, il est mort, il est tombé, faisait 20 mètres de haut, et c'est-à-dire 350 tonnes. Il faut quand même le sortir de la carrière, le rouler jusque-là et le planter. Et un autre menhir faisait 14 mètres. Et ça, c'est très impressionnant parce que ce menhir, il a été découvert par hasard. Je veux dire qu'il y a un grand tumulus dans le golfe du Morbihan qui s'appelle Gavrinis. Ce tumulus de Gavrinis, on l'a nettoyé. Donc on a sorti un petit peu la terre, les pierres, et on est arrivé sur le dessus de la sépulture, la grande dalle qui est sur la chambre sépulcrale. Or, la grande dalle avait des décors à l'extérieur, à la surface, donc du côté qui n'est regardé par personne. Et ces gravures-là étaient coupées, cassées. Et on a eu la chance de trouver la suite de la gravure dans deux dolmens de Locmiriécaire. C'est-à-dire qu'on a trouvé trois morceaux qu'on n'a pas pu mettre ensemble, mais qui nous ont donné la gravure dans son ensemble et qui nous ont appris que ces trois morceaux appartenaient à un même menhir qui faisait 14 mètres de haut et que ce menhir a été brisé comme on a brisé des bouddhas il n'y a pas longtemps en Afghanistan. On a cassé les idoles pour faire une autre culture, d'une religion certainement très proche, puisque les premiers mégalithes ont été suivis par les seconds mégalithes, mais qui a utilisé quand même les pierres de la première religion pour s'en servir pour la suivante. Donc l'humanité est la même depuis 3 millions d'années, c'est ce que je tiens à dire. Donc ça, c'est mon travail dans le Morbihan, et notre idée, bien sûr, c'est de faire rentrer ces monuments au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a des chances qu'on y arrive. J'ai 26 maires de 26 communes, bien sûr, de 26 maires d'opinions différentes que je dois fédérer pour qu'ils adhèrent à cette idée de faire rentrer les tonnages de granit au patrimoine mondial. Donc, en conclusion, depuis 3 millions d'années, l'homme est le même, enfin pour moi. Quels que soient les temps, quels que soient les espaces, autrement dit, quels que soient les temps géologiques, quels que soient les espaces géographiques, il y a une très grande homogénéité. Finalement, la Terre est très petite, et c'est intéressant de prendre conscience du fait que ce mammifère que nous sommes, ce mammifère de taille moyenne, sur une planète de taille moyenne, autour d'une étoile banale, dans un système stellaire très banal, au milieu d'une galaxie comme il y en a des milliards, est une petite chose de rien du tout, et qu'en même temps, nous sommes le réceptacle, exemple à l'Académie des sciences morales et politiques, nous sommes le réceptacle de l'état le plus compliqué et le mieux organisé de la matière qui soit. Ce qui est un constat, quoi. Je ne peux pas en dire plus, mais on comprend bien que depuis que l'homme est homme, avec, j'y tiens, ce paradoxe de liberté et de responsabilité, il y ait cette perception du spirituel, et je suis sûr que l'homo religiosus est aussi ancien que l'homme lui-même. Merci beaucoup.